On va reprendre maintenant l'exposé de Arden Reed, que nous avons le grand plaisir d'accueillir de nouveau. Donc Arden Reed est professeur à Pomona College, aux États-Unis, et vous êtes spécialiste de littérature, beaucoup de choses, de la littérature et de l'art au XIXe siècle, notamment de Flaubert, du modernisme, et vous avez publié plusieurs livres, dont un qui a été traduit en 2012, Manet, Flaubert et l'émergence du modernisme, qui est paru chez Champion, qui est un livre de 2003 traduit, là, qui est sorti l'année dernière. Et donc, votre conférence d'aujourd'hui va porter sur l'image lente et la stéréoscopie. Donc, je vous laisse la parole.
Merci. Merci Anne, merci aux organisateurs. Et aussi merci à Chantal de Biasi qui a fait la traduction de mes remarques. Toutes les fautes sont évidemment les miennes. Il faut commencer par demander votre indulgence pour mon américanisme du style. Dit Flaubert, la bêtise me fascine. Mon sujet porte sur la stéréographie du 1850 à 1880. J'ai choisi ce thème parce que les images en stéréo nous offrent un degré surprenant, un témoignage sur l'environnement visuel et le contexte culturel dans lequel Flaubert écrivait. Les stéréogrammes du milieu du siècle nous montrent à plusieurs reprises ce que Flaubert a employé à saper. Cet employé à saper. Il constitue un univers de clichés visuels parallèles à ses idées reçues. Par exemple, les intrigues romantiques, les lieux exotiques, les fantasmes érotiques, les gens traités comme des objets et vice-versa. Les stéréogrammes soulèvent les questions de la nuit et du divertissement qui préoccupaient Flaubert. Alors qu'elles paraissaient souvent naïves, ces images peuvent aussi exprimer l'ironie et l'autoréflexivité. En bref, les stéréos illustrent les textes de Flaubert. Un tel témoignage est d'autant plus précieux que Flaubert est un artiste extraordinairement visuel, comme a montré Juliette et comme a montré De Biasi. Je cite De Biasi, « L'imaginaire flaubertien paraît se développer et prendre assise sur une représentation d'origine visuelle et de situation narrative. » Flaubert a besoin de voir, comme un rêve, ce qu'il veut évoquer. Souvent, en marge de ses brouillons, il s'instruit. Faire tableau, par exemple, en marge du manuscrit de Saint-Julien, tableau de deux cadavres, leur face sous la coloration livide des vitraux, fin de citation. De Flaubert, Hippolyte Taine dit, sa tête est une photographie. Ma communication aujourd'hui examine les stéréogrammes français sous un angle flaubertien. Je vais me servir de Flaubert pour lire ou situer les stéréos. Peut-on aussi renverser la formule? Il nous reste à voir si la stéréoscopie nous permet de situer Flaubert. Voilà Flaubert en Égypte à l'âge de 29 ans. Cette entreprise est évidemment perverse. Illustrer Flaubert est perverse puisqu'il abhorrait l'idée même de l'illustration. Et à côté de cela, on connaît bien sa position envers la photographie. Quand Louise Collet lui offrait une photographie d'elle, il écrivait « Je déteste les photographies à proportion que j'aime les originaux. Jamais je ne trouve cela vrai. » Il commente dans ses carnets un peintre anglais doté d'une facilité de remémorisation totale. La mémoire trop exacte, agissant comme un appareil photographique, nuit à l'idéalisation qui seule fait vrai. Du point de vue de Flaubert, le réel se fait passer pour le vrai. Il n'est pas difficile d'imaginer le plaisir qu'a pris Flaubert à faire abandonner la peinture au profit de la photographie à pèlerin dans l'éducation sentimentale. Extrait du dictionnaire des idées reçues. Daguerréotype, remplacer la peinture, voir photographie. Photographie détrônera la peinture, voire daguerréotype. L'animosité de Flaubert n'était pas un cas isolé. La photographie ne fut admise au salon qu'en 1859, 20 ans après que Daguerre l'eut fait connaître au public. Et même ainsi, elle était maintenue à l'écart des autres arts. Cette même année, Baudelaire proclama Daguerre messie d'un dieu vengeur et, à propos du salon, écrivait que la photographie était, je cite, le refuge de tout peintre trop doué ou trop paresseux pour terminer ses études. Fin de citation. Ni cette opinion, ni aucune autre n'empêche le développement de la stéréoscopie. Alors, pour esquisser mes remarques, cette communication ne marche pas tout à fait directement. Je commence par commenter sur le fonctionnement des stéréos, leur allure et leur histoire. Après quoi, une petite divagation, pourquoi les stéréos m'intéressent. Troisièmement, je parle de l'emploi des stéréos qui suit un arc de la distraction à la nuit. Et enfin, je retourne à Flaubert pour une perspective stéréoscopique. Bien. Les images en stéréo sont faites en collant l'une à côté de l'autre sur une carte et séparées de quelques millimètres deux photos d'une même chose. L'une des images montre la chose légèrement à gauche ou à droite de l'autre. Quand cette carte est insérée dans la visionneuse, les deux images se font dans notre esprit pour former une représentation absolument tridimensionnelle. Ce processus a été appelé vision binoculaire. À la différence de la photographie, la stéréoscopie est un art du temps. Analysons l'enchaînement qui produit la durée. En premier lieu, le cerveau synthétise les deux images, ce qui occasionne un mouvement psychique. David Brewster, qui a inventé un modèle de stéréoscope, insiste sur ce mouvement mental en même temps que sur sa rapidité. Je cite, « Le relief est donné par le jeu des axes optiques changeant en une succession rapide et unifiant les points similaires dans chaque image. En d'autres termes, les spectateurs ne reçoivent pas l'image de manière passive, ils exécutent la stéréoscopie. En second lieu, cette synthèse mentale crée l'illusion de la profondeur. En troisième lieu, la profondeur stimule et simule à son tour le mouvement optique. L'œil devient spéléologue d'une image en explorant le recul produit par la stéréoscopie. Son illusionnisme fait ressentir ce voyage en fauteuil comme un voyage physique. Et en quatrième lieu, ce mouvement optique produit de la durée quand l'œil voyage en avant et en arrière par rapport au plan de l'image. Selon Aristote, nous avons la notion du temps grâce au fait que quelque chose a bougé dans l'espace. C'est le stéréoscope de David Brewster et c'est le stéréoscope de Oliver Wendell Holmes, Sr. Au milieu du 19e siècle, la stéréoscopie était souvent répertoriée comme une distraction appartenant aux autres divertissements de masse comme les spectacles de lanterne magique, les dioramas, les panoramas, les livres animés ou feuilletages, les musées de cire ou les jouets fondés sur la continuité de la vision. D'autres ont pris l'invention au sérieux. Le journaliste américain Oliver Wendell Holmes, Sr., fut un grand passionné. En 1859, il consacre trois articles à la stéréoscopie. « Ce n'est pas un jouet, » insistait Holmes. « C'est un don divin placé entre nos mains qui révèle la toute-puissance à travers les lèvres de ceux qui étudient humblement la nature. » Il conclut qu'une nouvelle époque dans l'histoire du progrès humain date de l'invention de la stéréographie. Fut-il ou faisant date, les stéréos à l'ère de Flaubert exprimaient la modernité dans deux sens. D'abord, grâce à leur capacité d'enregistrer des objets en mouvement. ici, en bas, c'est l'image célèbre du boulevard du Temple par Daguerre, vers 1839. La rue est vide du monde parce que les piétons se déplacent trop rapidement pour que sa plaque les enregistre. Comparé avec le stéréo à nom des frères Anthony, vu de Broadway un jour de pluie, exécuté juste 20 ans après, quand les moyens chimiques permettaient de geler le mouvement. Avec leur vue instantanée et miraculeuse, les Anthony ont mis en relief ce que précisément Daguerre avait effacé, une roue débordante de la circulation d'hommes et des véhicules. Deuxièmement, les stéréos expriment la modernité par leur capacité à comprimer l'espace et le temps, à introduire le monde dans le salon bourgeois. En regardant les stéréos, Holmes remarquait « Je suis passé en un moment des quais de la Charles Rivière à Boston, aux rives du Jourdain, tout en demeurant, pour ce qui est de mon apparence extérieure, dans un fauteuil devant ma table. La lune elle-même ne semblait pas hors d'atteinte. La sphère s'arrondissait si parfaitement sous l'œil que l'on avait l'impression de pouvoir la saisir comme une orange. » Maintenant, il me faut vous demander encore une indulgence, c'est d'excuser la qualité des images suivantes. J'explique, je l'ai pris à la BN, c'est sous forme de microfilm ou de microfiche que j'ai fait copier sur papier et ensuite j'ai scanné les images. Alors, la qualité manque quelque chose. Par exemple, mais c'est un peu lisible, ouais. Vous arrivez à discerner quelque chose? Bon. La vitesse pouvait être diabolement excitante. Elle comportait un risque. Pensez au personnage bousculé par le trafic dans Perte d'auréole de Baudelaire. Voilà David Brewster et son stéréo. Histoire des stéréos. En 1851, lors de la grande exposition universelle au Crystal Palace, David Brewster offrit à la reine Victoria son meilleur modèle de visionneuse stéréo. Elle fut éblouie, car l'effet était effrayant. Les images en 3D offraient au spectateur une expérience visuelle d'un espace qu'il n'avait jamais connu. Jacques Babinet remarque comment, par un effet vraiment magique, par une irrésistible illusion, avec une conviction complète de sensation, la peinture devient sculpture. Le réalisme de Flaubert, dans la mesure où elle était d'une précision scrupuleuse dans les détails, rencontre ici un réalisme d'un autre espace, tout aussi réussi. Selon Holmes, le premier effet produit par une bonne photographie vue au stéréoscope, c'est une surprise d'une nature qu'aucune peintre n'est jamais parvenue à produire. L'esprit se fraye un chemin dans les profondeurs mêmes de l'image. Les branches hérissées d'un arbre situé à l'arrière-plan ressortent comme si elles voulaient nous égratigner les yeux. Notez la menace implicite pour les yeux. Holmes poursuit. Il y a donc une quantité si effrayante de détails que nous ressentons une infinité complexe, semblable à celle que nous éprouvons devant la nature. Fin de citation. Au-delà de la tridimensionnalité, l'espace stéréoscopique est magique parce que, alors que l'œil s'éloigne, les objets conservent leur netteté. L'abbé Mognon même comparait la stéréoscopie à la résurrection, extrait de sa revue Le Cosmos. Nous pouvons sans peine réaliser des galeries de portraits qui ne seront plus des fictions de peintres ou de sculptures terrestres, mais l'expression vivante des têtes belles ou fortes que nous prenons plaisir à immortaliser. L'enthousiasme de la reine Victoria suscita une explosion de ventes. Dans les 3 mois qui suivent sa visite à Crystal Palace, dans les seules France et l'Angleterre, on vendait autour d'un quart de million d'images stéréoscopiques. Des salons de l'aristocratie, le stéréoscope se répandit rapidement dans la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, et finit par gagner la classe laborieuse. À moins de 6 ans, la compagnie stéréoscopique de Londres commercialisa un demi-million de stéréoscopes. Entre 1860 et 1920, le stéréoscope devient un objet aussi ordinaire dans les maisons britanniques et américaines que la poste de télévision. Au-delà de leur nouveauté optique, les stéréos vendent bien parce que les fabricants découvrent très vite quels étaient les sujets attractifs pour le public. La stéréoscopie était omnivore. Les photographes étaient exactement à l'instar de Flaubert, capables de tirer un sujet de rien ou de tout. Bientôt, les stéréographes cadrent le monde entier. Par exemple, et le familier et l'exotique. Le présent, c'est l'Expo universelle de 67, et le passé, c'est un stéréo d'un photographe qui s'appelle Furne, Louis XV. C'est Bertrand qui photographie le Louvre. Alors, le familier, l'exotique, le présent, le passé, le sacré, c'est Bloch, la pêche miraculeuse ou la résurrection, mais également le pornographique, Belloc, nudité, Pion, psyché. Ensuite, le réel et l'imaginaire. Le réel, c'est Mariné. L'imaginaire, c'est un plâtre de Jouvin et aussi des fantaisies orphelines. Le naïf et le sophistiqué, c'est Numafi. C'est difficile à voir, mais c'est pas mal flaubertien. Ici, un miroir, dans le miroir, on voit un couple amoureux et des trucs ici tout à fait flaubertiens, des petits objets qu'il adore. Et enfin, la science et l'art. C'est Gaudin, femme peintre. En fait, c'est seulement grâce à la stéréographie que de grands pains de la vie du Second Empire ont été préservés. Divagation. Qu'est-ce qui m'a conduit au stéréo? Scène typique orientale. Je suis tombé sur la stéréo par hasard en faisant des recherches pour mon livre « Esthétique de la lenteur » dont je dois le titre à Pierre-Marc de Biasi. En anglais, c'est « Slow Art ». Mais je préfère « Esthétique de la lenteur », c'est beaucoup plus poétique, non? Bien. Je dois donc faire un bref détour pour vous fournir quelques informations sur le contexte. Ce livre pose une question simple, mais épineuse. Comment, à l'âge de l'Internet et du plaisir visuel immédiat, comment créer les conditions d'un regard significatif sur l'art? La réponse réside en grande partie dans des actes de séduction. Il s'agit de capter les regardeurs pour ralentir le rythme. Comme l'observait Diderot déjà, une peinture réussie produit trois effets. Elle interpelle les spectateurs, elle les arrête et elle prend possession d'eux. Mais comment les spectateurs du XXIe siècle pourraient-ils apprendre cet appel? Esthétique de la lenteur esquisse une brève histoire du regard. Et le fil conducteur, à travers plusieurs siècles, c'est le tableau vivant. Ce choix est loin d'être évident. Et l'expérience peut, il est vrai, n'aboutir à rien d'autre qu'un jeu stupide. Mais pour l'instant, laissez-moi préciser que les tableaux vivants incarnent parfaitement l'art lente. L'une des tâches de mon livre consiste à réhabiliter cette pratique. Je développe trois arguments. D'abord, les tableaux vivants constituent une forme esthétique fondamentale parce qu'ils mettent en jeu des modes d'expérience essentiels. Les tableaux vivants se situent entre deux dimensions et trois, entre le mouvement et l'immobilité, et entre l'art et la vie, et entre l'art et la mort. En second lieu, les tableaux vivants sont indéfiniment adaptables. Quand apparaissent de nouvelles technologies, ils ne se démodent pas. Au contraire, ils s'adaptent et s'intègrent ces nouvelles technologies pour créer de nouvelles formes esthétiques, comme les stéréogrammes ou, de nos jours, les vidéos. Leur malléabilité résulte de leur origine créole, au théâtre, dans la peinture et le récit. Et troisièmement, les qualités fondamentales ajoutées, leur adaptabilité, expliquent pourquoi les tableaux vivants n'ont cessé d'exister à la fin du XIXe siècle, contrairement à ce que beaucoup de gens supposent. Au contraire, ils jouent maintenant d'une seconde renaissance. Je vous propose trois exemples. Ça, c'est un festival de tableaux vivants dans la Californie du Sud, à Laguna Beach, qui s'appelle Festival of the Masters. Ensuite, une image d'une vidéo, vous connaissez, d'Yves Sussman, 89 secondes à l'Alcazar. Ensuite, un tableau vivant d'une série de télévision américaine qui s'appelle Arrested Development. Et enfin, deux photographies d'un photographe canadien, Jeff Wall. Vous voyez évidemment la référence, mais vous voyez l'installation, la deuxième encadré stéréo. Bien. Alors, Renaissance. Mon intérêt pour les tableaux vivants m'a conduit à rechercher une preuve photographique. À quoi exactement ressemblaient les spectacles du 19e siècle? Pendant une année sabbatique, j'ai passé de nombreuses heures à la BN, au département des estampes. Mon intuition s'est avérée correcte. La collection comportait des images photographiques de représentations de tableaux vivants, mais essentiellement sous la forme de stéréogrammes. Par exemple, le rideau de la Méduse, qui se trouve en plusieurs stéréogrammes. En fait, l'historien Denis Pellerin, pas de parenté avec le Pellerin de Flaubert, je suppose, Pellerin dresse une liste d'une centaine d'exemples existants encore. Le photographe Marie-Antoine Gaudin a mis en scène l'impératrice en tournée de ses dames d'honneur de Winterhalter, et Henri Lefort a reproduit l'exécution de Lady Jane Grey de Delavoche. Ce que je n'ai pas compris initialement, c'est que ces vues en stéréo sont les ultimes représentations des tableaux vivants. Elles combinaient l'immobilité de la photographie avec la durée du spectacle, présenté sur forme d'image hyper réelle. Les stéréogrammes de la Bibliothèque nationale montrent offerte une autre gratification. Mon livre se concentre sur les relations entre le mouvement et la stase. Et c'est encore par hasard que je suis tombé sur une série de 35 stéréogrammes qui représentent et analysent le mouvement, projet favorisé par l'époque de l'accélération. Pour autant que je sache, ils sont passés complètement inaperçus. La série est répertoriée comme épreuve en mouvement. Elle a été réalisée dans les années 1850 par Charles Fourne, l'un des photographes de stéréogrammes les plus inventifs de France. Les épreuves de Fourne tentaient de montrer comment l'action se déploie au fil du temps. Sous ce rapport, il ressemble à Muybridge et Marais, mais furent travaillés quelques 20 ans plus tôt. C'est comme s'il répète Saint-Antoine à la fin de la tentation. J'ai vu le commencement du mouvement. L'innovation de Furne consiste à modifier les poses des gens sur le stéréogramme. Une femme devant une planche à laver avec les bras levés sur l'image de gauche baisse les bras sur celle du droit. Ces épreuves sont ainsi l'équivalent de protofilms fixes. Deux images montées l'une à côté de l'autre décrivent des mouvements successifs. De même que le film séquentiel reste immobile, il enregistre une période de temps limitée qui, une fois de plus, transforme la stéréographie en un art de temps. Le temps passe dans la lamelle de carton qui sépare les deux photographies, dans l'espace caché par le mécanisme de visionnage, dans son point aveugle. Les épreuves essaient d'occuper et d'illuminer ce point aveugle pour capturer cet espace dans lequel le temps se déroule. La série enregistre un monde pré-industriel par des moyens industriels, des activités domestiques faites de simples mouvements accomplis à l'extérieur où la lumière naturelle les rend faciles à enregistrer. Avec Furn, nous ne voyons jamais représenter les machines qui créent les représentations. Plutôt que les moments qui s'étendent le long d'un continuum, ils photographient les points limites d'action simples à deux temps. Le baratrage du beurre, le pompage de l'eau, le sillage d'une planche. Point limite qui convient à la structure en deux parties d'un stéréoscope. Comme les spectateurs étaient accoutumés à de telles actions, les études de mouvement nécessitaient qu'une activisation de mémoire collective. Si les deux images de Furn s'occupent du début et de la fin d'un mini-récit, ils négligeaient la partie intermédiaire. Cet intervalle était occupé par l'imagination du spectateur comme les lecteurs complètent les fragments d'un récit. Parce que scier ou pomper sont des gestes répétitifs, nous n'imaginons pas un début et une fin unique, mais une séquence. La stéréo est un jeu de bascule devant une espèce de balancier de pendule. L'espace entre les images figure l'intervalle entre un tic et un tac. Mais le résultat est une aberration temporelle, car notre milieu imaginé suit nécessairement la fin visible. Par exemple, cette femme donne une fesse à un enfant alors qu'à droite, un autre enfant fait pied de nez inaperçu de la femme qui pourrait bien lui donner la fessée à côté pour sa grossièreté. Comme des voyeurs, nous sommes amusés par la fessée, pimentés par le frisson de châtiment corporel sous prétexte de discipline, par identification avec l'une à l'autre des acteurs en fonction de nos tendances sadiques ou masochistiques. Dans une autre image, une bourgeoise frappe un volant de badminton. C'est la seule femme oisive de la collection qui s'adonne au seul jeu d'adulte. Mais il existe une ressemblance tacite entre son geste d'apparence mécanique lorsqu'elle joue et les images précédentes de gens au travail. Bien, comment les gens faisaient-ils l'usage des stéréos à l'époque de Flaubert? Au-delà des représentations des tableaux, la stéréoscopie recueille une place dans mon livre pour une autre raison. Les vues en stéréo étaient spécialement conçues pour capter notre regard avec des moyens qui ni la peinture ni la photo ne possédaient. Le stéréoscope focalise notre attention grâce à la mise entre parenthèses et le remplissage du champ visuel du spectateur. Holmes décrit comment le coup d'œil porte sur les objets environnants et la concentration de toute l'attention produisent une exaltation de facultés semblable à celle du rêve dans lequel nous avons l'impression de laisser notre corps derrière nous pour voguer vers l'avant. La stéréoscopie contraignait le regard, mais d'une contrainte au service de la distraction. Le pouvoir d'attraction des cartes en stéréo est renforcé par deux facteurs que nous avons mentionnés. D'abord, les fabricants choisissaient de vue pour ce qu'elle avait de célèbre ou de dramatique d'un point de vue visuel, Saint-Pierre ou les pyramides de Gizeh. En second lieu, à cause de la nouvelle profondeur qu'elle procurait à l'expérience visuelle. En 1864, le photographe Godin dit, Vous regardez d'abord l'image en entière, mais ensuite vous ramenez successivement votre regard vers les détails. Et vous êtes étonné de ce qu'il y a de fascinant. Vous ne voyez en laissant vraiment jamais la différence de ce que vous feriez devant les plus belles photographies. Holmes confirme. C'est une erreur de supposer qu'on connaît une image stéréoscopique quand on l'a étudiée une centaine de fois. La stéréoscopie semble répondre aux critères de Diderot. L'image interpelle, arrête et capte le spectateur. Mieux que la photographie, la stéréoscopie amusait. Regarder des stéréogrammes devient un passe-temps bourgeois. Cela offre une voie permettant d'affronter la grande démon flaubertien la nuit. Alors, au jardin des plantes, voilà les hommes regardant des danseuses. Encore des amusements bourgeois. Ici, l'hypnotisme. C'est difficile à voir, mais il y a encore entre deux chaises. Et la prochaine, il faut que je vous demande confiance parce que c'est presque illisible. Ah, non, après ça, alors, tout à fait illisible. Mais le titre, c'est de Thibault, numéro 217, c'est « La nuit ». Bien, ça c'est Gaudin. Au-delà des représentations des tableaux, un stéréoscope peut contenir entre 50 et 200 cartes selon des motifs choisis au gré du spectateur dans une collection d'offres à peu près infinie. Il a dû paraître merveilleuse qu'une unique machine puisse contenir tout sujet, témoigner de l'excitation captée par le monde illustré en 1857. À partir de l'apparition du stéréoscope, je cite, « Le goût du public est devenu plus avide, plus chercheur, plus insatiable, c'est ça ?»« Merci. » Vous savez, pour les lèvres américaines qui n'ont pas l'habitude de parler français, c'est un peu olympique ce que j'essaie de faire. Bien, insatiable que jamais, le public auquel il faut de nouveau du surprenant, de l'imprévu, et qui veut ardemment reparaître sous ses yeux de sa chair en même temps que sous les yeux de son esprit. Mais cette merveille cache un problème. Le succès même de l'accoutumance à la stéréo contenait les germes d'une défaillance. La facilité de changement de vue peut avoir, dans une certaine mesure, encouragé quelque impatience de l'observateur avide et chercheur. Le désir de regarder ce qu'il y a juste après. La tentation de parcourir le globe sans effort s'avère être une pente savonneuse. La main permet à l'œil de se déplacer toujours plus vite. À vrai dire, dans l'histoire du regard, il n'avait jamais été possible aux spectateurs, prince ou pauvre, de maîtriser une telle gamme d'images. Plus les images deviennent accessibles, plus s'accroît le désir d'obtenir davantage, le désir de pure différence et du spectacle. Pourtant, le nombre croissant annulait les différences qui pouvaient exister entre elles. Les spectateurs de stéréo faisaient peut-être de cette façon la première expérience au monde du surfing sur le web. Par une ironie que Flaubert aurait appréciée, l'effort pour combattre la nuit produisait la nuit. L'attention cultivée par la stéréoscopie conduisait à la distraction. La flânerie se transforme imperceptiblement en impatience et en obsession. En 1859, déjà, Holmes avertit lui-même son lecteur. Gardez-vous d'investir en grande partie dans des groupes de stéréogrammes. Le propriétaire s'ennuie bientôt à mort. 5 ans plus tard, Gaudin se plaignait. Je crois qu'en général, on regarde mes vues stéréoscopes de façon trop rapide. Les stéréos suscitent des questions sur la modernité concernant l'attention et la distraction, la concentration et la divagation. Les stéréos sont porteuses de la double signification du mot distraction. Le plaisir de se divertir facilement, ou diversion, mais aussi une incapacité à concentrer. Comme la nouveauté s'use, le 3D est remis à plat vers le 2D. Lire Flaubert. C'est à vous maintenant de me montrer si et comment ces matériaux peuvent nous aider à lire Flaubert. Permettez-moi seulement de lancer quelques suggestions. Comme je l'ai remarqué, une visionneuse à stéréo est une machine à remonter le temps qui nous ramène dans le monde de Flaubert. Les stéréogrammes, selon que je l'avance, nous montrent des matériaux pour sa fiction, aussi directement que les romans lus par Emma Bovary. En fait, certaines scènes composées en stéréo illustrent les intrigues de lecture d'Emma. Comme Bouvard et Pécuchet, les photographes de stéréo sont des copistes. Ils reproduisent des lieux communs. Ces photographes créent leurs propres idées reçues. Ils distillent des platitudes. Ils aplatisent les choses, tant du point de vue du contenu que de la forme. À côté de la représentation des intrigues, des poses et des scènes convenues, certains photographes de stéréo avaient de puissants intérêts formels. Ils travaillent le style aussi bien que l'intrigue. Certains d'entre eux étaient hautement ou même littéralement autoréflexifs. Et maintenant, une petite anthologie d'illustrations flaubertiennes, des scènes clichés que j'ai recueillies des scènes composées. Ici, ce n'est pas un stéréogramme, c'est une illustration d'une maison pittoresque. Et après, je vous montre quelques images de Fourne qui imagine une maison à Paris, de bas en haut. Alors, au sous-sol, je m'excuse d'aller tellement vite, c'est contre mes habitudes, comme vous le savez, mais le temps manque. Alors, on monte. Et enfin, le rapin. Voilà un plâtre de Belloc, une scène romantique. Duel. Guerre d'Italie. Blancheuse. Cabinet particulier. C'est un couple dont le monsieur est devenu ivre et le garçon, il prend davantage. Le voyeur. L'orientalisme. Image proto-freudienne. Atelier des artistes. Et enfin, des images autoréflexives. C'est Le Mercier, bizarre. C'est encore Gaudin. Locke. Et anonyme. Bien, après avoir allé très vite, maintenant je me ralentis pour terminer avec une lecture de cette stéréo. C'est fait de Charles Marinet, sans titre, sans date. Il offre évidemment une perspective autoréflexive, une autre conception du rapport de l'artiste au public et une autre appréciation des préoccupations bourgeoises. C'est peut-être le plus remarquable des scènes composées que j'ai découvertes à la BN, même si aucun critique ne semble l'avoir remarqué. Le stéréogramme de Marinet ressemble à un tableau vivant du type de celui dont je viens de parler, l'artiste au travail dans l'atelier. En l'occurrence, un photographe de stéréo. Vu du côté de l'appareil photographique, c'est difficile à voir. C'est une vue. Ici, c'est une vue stéréoscopique de quelques perspectives plongeantes. En une seule image, Marinet représente la technologie et la modernité, la vitesse et l'immobilité, tout comme l'affinité de la photographie avec la mort. À travers le viseur, nous voyons une composition pyramidale de 5 figures dans un jardin. Chacun d'entre elles semble jouer un rôle qui lui aurait assigné d'avance. À l'extrême gauche, une femme à l'air grave se tient derrière un enfant. Cet enfant maintient le tripode d'un appareil photo qui semble dirigé vers une femme qui se trouve du côté opposé et qui pose assise pour son portrait. Elle tient sur ses genoux un exemplaire du Figaro. C'est pas visible ici, mais si vous approchez, c'est visible le titre Figaro. Derrière elle se prélasse un homme en chapeau haute forme, sa main gauche est nonchalamment appuyée sur une colonne blanche qui semble être la base d'une sculpture. Alors qu'il paraît remplacer une statue manquante, son attitude désinvolante subvertit l'association du pédestal avec l'antiquité et la raidure. Plus encore, il brandit inexplicablement dans sa main droite un pistolet de duel. Entre la femme et l'appareil photo, un autre homme se penche, qui tient dans sa main gauche un mandolin. C'est ce monsieur ici et son instrument musical. Une statue de Mercure qui commence ici, qui se termine là. Une statue de Mercure avec le caducée et la coiffe ailée complète la scène. En juxtaposant une statue classique et des modèles contemporains, cette image offre un exemple de la notion baudelairienne selon laquelle la beauté moderne suscite un dialogue entre l'éphémère et l'éternel. Et ce stéréo est probablement contemporain de l'œuvre tardive du poète. Au-delà de ces détails, peu de choses nous semblent certaines. Pourquoi ces gens se sont-ils rassemblés et quelles relations entretiennent-ils? Quelle intention narrative peut avoir besoin de regrouper un musicien, un homme qui tient un pistolet, un enfant photographe, une matron et une dame avide d'informations? Comme dans les compositions de Manet et de Degas, peintes au même endroit et à la même époque, Marinet occulte les signes lisibles de rapport entre ces personnages. Voisins physiquement, ils ont l'air psychologiquement enfermés, chacun dans son propre monde. Existe-t-il une intrigue à la cohérence cachée? Ou bien, les personnages qui posent sont-ils juste en train de s'amuser, de faire une blague? La composition de Marinet n'est précisément pas aléatoire, comme le révèle l'analyse formelle. Sa composition structure des paires en opposition, deux espaces de tir, deux artistes, deux périodes esthétiques. Et ensuite, instruments. Le stéréogramme juxtapose l'appareil photo et le pistolet, deux machines qui visent, tirent et immobilisent. Le dueliste rencontre notre regard, comme pour défier les spectateurs grâce à une autre sorte de tir. Artiste. Un photographe et un musicien. L'un exprime la modernité, l'autre la tradition. Les deux arts supposent la durée, l'une comprimée, l'autre prolongée. L'une visuelle, l'autre orale. Période esthétique. Le mythe affronte la modernité, opposée au classicisme, la statue de Mercure en trois dimensions, contre la modernité en deux dimensions de la photographie à l'œuvre. Temporalité, les spectateurs comprennent qu'être assise pour un photographe exige des sujets qui conservent la pose et nous les percevons comme suspendus. Cependant, de même que la sculpture a perduré ou été copiée, la photographie promet de préserver ce moment pour le futur. En fait, le tableau de Marinet comprenne une gamme de temporalités qui vont de l'immobilité au mouvement, de figures qui posent à des figures actives. Par ordre de durée, l'instant, que ce soit dans l'acte de se tenir debout ou d'être assise, le musicien est saisi dans un mouvement fugitif. B, le temps de pause requis par un homme et une femme. C, l'espace d'un jour, le Figaro. D, l'antiquité, la sculpture. E, nature, le temps cyclique et saisonnier dans le jardin. Chaque figure requiert une analyse, mais je limiterai ma lecture à Mercure. Il semble qu'il vient de se poser, ou qu'il soit sur le point de s'envoler. En tant que statue, Mercure exprime l'immobilité, mais sa connotation mythique et sa pose expriment la vitesse. La main gauche levée au-dessus du front, la tête tournée. La torse de Mercure est plusieurs fois fragmentée, interrompue par les branches et le chapeau du musicien, comme pour démembrer l'héritage classique. La présence olympienne dans ce jardin est surdéterminée. Un messager volant entre les hommes et les dieux, saisi dans une rapidité figée, la figure qui guide la mort dans l'au-delà, le dieu des frontières, le magicien de l'invention. Mercure est aussi la divinité de la ruse, du mensonge et du vol. Mercure est Hermès. Il est lié à l'herméneutique ou l'interprétation, ce que sa présence exige pour l'image. Mercure est le dieu de la stéréoscopie. Regardez cette image, nous demande de passer tour à tour du processus au produit, du mouvement à la stase, d'entrer dans la fiction et de nous en dégager. Au départ, nous avons l'air d'être derrière les scènes, en train de regarder une séance de photographie dans un parc, le stéréogramme simulant une prise de vue documentaire. Marinet semble nous mettre dans le secret d'un moment précédent l'ouverture de l'objectif, sans dissimuler le processus du travail du photographe. Le moment final, la pose parfaite, doivent encore être atteintes. En fait, ce que nous voyons est bien sûr le produit fini, le point final. Le musicien ne bouge pas plus que Mercure. L'enfant photographe est autant que n'importe qui d'autre, l'objet d'un œil d'appareil photo. Marinet nous a absorbés, tant d'un point de vue narratif que d'un point de vue optique. Nous comprenons que l'image est truquée. Cela n'est pas une véritable séance de photographie. Nous sommes ainsi mystifiés, puis démystifiés. Il y a certaines parenthèses avec la communication précédente, là. Il doit y avoir un deuxième appareil photo, posé sur un autre tripode placé en face de la scène que Marinet a montée, l'appareil photo pour lequel chacun joue vraiment son rôle. Si le stéréogramme de Marinet annonce une vue d'arrière-scène, nous ne pouvons pas sortir de son cadre et assister à la réelle scène de prise de photo qui va avoir lieu. Nous ne pouvons pas voir ce qui est vrai et ce que nous voyons est faux. Il suggère que la photo n'est pas un fait, mais une simulation. C'est presque terminé. Finalement, nous comprenons cependant que ce que Marinet a fabriqué est en même temps vrai. À la différence de ce qui se passe quand nous regardons un tableau composé de la même façon, nous regardons des personnages authentiques en train de faire réellement photographier dans un véritable endroit. L'appareil photo invisible enregistre ce que nous aurions vu si nous avions assisté à la séance. Nous nous tentons à l'endroit où se trouvait l'appareil photo caché, faisant fusionner nos deux yeux avec les deux lentilles de l'appareil photo quand nous imprimons la scène sur la planche de notre mémoire. Mais faire fusionner nos yeux avec l'objectif de l'appareil photo est métaphoriquement mortel. Nous faisons fusionner avec un œil sans âme, mécanique, évoquant par le stéréogramme à faire de nous le cible de regard de l'homme qui tient le pistolet. Dans l'image de Marinet, tous les acteurs sont finalement Mercure, puisque chacun porte un symbole, pistolet, appareil photo, journal, mandoline. Nous sommes tous comme Mercure parce que l'image sollicite de nous une interprétation. Bien que les normes esthétiques de l'époque aient imposé aux signes visuels d'être lisibles, Marinet les rend obscurs, comme le font Manet et Degas. Il y a tirage et tirage, et la stéréo oscille entre la bouffonnerie et la mort. C'est aussi une dialectique flaubertienne. Donc, à vous maintenant de jouer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ça. exposé très, très intéressant et aussi très, très parlant. Et merci aussi d'avoir fait l'effort de le faire en français, ce qui est une autre langue.
C'est moi qui vous remercie.
C'était parfait. Et vraiment, le commentaire de cette dernière image est très éclairant pour vous. Robert, j'étais aussi très intéressée par ce que vous avez dit du stéréotype et du fait que les clichés sont des clichés photographiques également, hein, pour Flaubert, et pour ça nous a mis sous les yeux un certain nombre de référents tout à fait intéressants. Alors, intervention, Françoise Gaillard,
merci, et Pierre-Marc Dubois. Tout à fait passionnant. Je pensais évidemment, en vous écoutant, et vous l'avez mentionné en passant, à ce qu'écrit Baudelaire dans son salon de 1859 à propos du stéréoscope.
Oui.
Lorsque, effectivement, il critique le stéréoscope pour deux raisons. D'abord, parce qu'il prétend, et vous l'avez évoqué, que ce qui était donné à voir était d'une terrible banalité. Et parfois, tombait dans la vulgarité, et que ce qui plaisait le plus, c'était les images polissonnes, hein, et que l'on voyait les gens les regarder, quelques images polissonnes, pornographiques, etc., et que ça relève pour lui de l'attraction foraine, en fait, évidemment, ces foules, hein, qui se précipitent, etc. Alors, bon, ça, on le sait, d'ailleurs. Baudelaire a déjà l'intuition de ce que Benjamin développera, à savoir que ça ne suppose qu'un regard distrait. Vous l'avez aussi mentionné. Mais là où je veux en venir, c'est un point, si je rappelle ça, c'est pour pointer au fond la fondamentale critique de Baudelaire. Baudelaire dit au fond, il regarde dans les trous du stéréoscope, il ne dit pas ces termes, mais c'est ce qu'il veut laisser entendre. Quelque chose qui s'épuise, du visuel qui s'épuise avec lui-même. Il n'y a rien au-delà, ça donne ça. Et dit-il, il regarde dans ce trou du stéréoscope, au lieu, et c'est là où il y a une grande différence qui s'établit, au lieu de regarder à travers les lucarnes de l'infini,
voilà.
Et les lucarnes de l'infini, c'est évidemment là, l'art permet de regarder à travers les lucarnes de l'infini, tandis que la photographie, ne vous montre à travers le trou du stéréoscope que quelque chose qui n'a pas d'arrière-plan, pas d'arrière-monde. C'est là la clé.
Arrière-plan, oui, arrière-monde, non.
Voilà, il y a d'arrière-plan, mais pas d'arrière-monde. Ouais. Excusez-moi, c'est exactement ça. Alors, donc, ça c'est intéressant parce que ça pose la question, effectivement, Baudelaire le dit, mais ça pose la question du rapport à l'art, et je pense qu'on pourrait le dire aussi pour de Flaubert, enfin, c'est quelque chose d'autre. Alors, deuxième point, mais ça va dans le même sens. Ce qui est tout à fait passionnant, d'ailleurs, il dit à propos, il mentionne aussi les tableaux vivants. Et il dit finalement, qu'est-ce que c'est que ces tableaux vivants? Ce sont des drôles et des drôlesses, c'est-à-dire des gens qu'on a pris comme ça, des figurants qu'on a pris dans le bon peuple. On les attif d'une certaine manière pour qu'ils puissent jouer des scènes à l'antique. Tout ceci est évidemment d'une vulgarité terrifiante. Mais ça pose la question du tableau vivant. Et en mentionnant. Le tableau vivant, tel qu'il ressuscite aujourd'hui, à travers donc, des photographes comme Jeff Walls, hein, qui fait des scènes composées, ouais. Dont le spectateur qui n'est pas averti peut croire que c'est un instantané, que c'est la réalité, que si on est dans une boîte de nuit, ou qu'on est dans la forêt canadienne, ou que, etc., que tout ça a été évidemment fabriqué, pour être plus vrai que le vrai, parce que c'est ça que l'on veut faire, donc ça suppose une idée convenue de ce que doit être la file d'attente. Pour entrer dans une boîte de nuit, ou ce que doit être une scène dans une forêt canadienne, le bûcheron. Avec aussi, d'ailleurs, la scène que vous avez, enfin l'image que vous avez montrée de la vidéo des Ménines, je suis un peu long parce que vous ne savez pas où je veux en venir. La vidéo des Ménines, que moi j'ai trouvée admirable, elle est magnifique parce qu'il faut que ceux qui ne l'aient pas vue comprennent qu'en réalité, ça commence par du vide et petit à petit, on voit les personnages prendre leur place. Hein, ils entrent. Lentement, petit à petit, ils entrent, et puis à la fin, c'est le tableau de Velázquez. Donc il y a une mise en place du tableau vivant. Et c'est important qu'il y ait une mise en place, parce qu'on voit que le tableau, c'est le moment parfait. Le moment parfait dont Sartre nous parle dans la nausée, Annie rêvait.
Oui, oui, tout à fait.
Et j'ai l'impression que Madame Bovary rêve aussi de ça. De quoi rêve-t-elle? C'est que les choses soient, apparaissent, dans leur perfection. C'est-à-dire dans une perfection que une certaine image peut donner. Le tableau de Velázquez, c'est la scène parfaite.
Ouais.
Hein, il y a une espèce de perfection, c'est le moment parfait. Hein, le moment, Annie disait que c'était dans les livres d'histoire, l'assassinat du duc de Guise, c'est formidable, c'est parfait. Bon. Donc, il y a quelque chose qui est lié aussi à une... Premièrement, on trouve, avec le stéréoscope, etc., l'idée du convenu, du cliché, du lieu commun, comme d'ailleurs, moment considéré comme parfait, c'est comme ce doit être. C'est comme ce doit être. C'est comme on imagine que ce doit être. Et aussi, le tableau, le chef-d'œuvre, Velázquez, etc., c'est parfait. Hein? On a une espèce de perfection. Donc, c'est ce vers quoi elle tend à tout moment dans sa vie. Elle voudrait que ce soit comme ces moments-là.
Ouais.
Que tous ces moments ressemblent à ça. Hein? Dans lesquels rien ne peut être enlevé. Alors, ça, c'est ce que m'évoquait conférence que j'ai vraiment énormément appréciée. Voilà une petite demande d'information. Lorsque vous nous avez montré la fessée ou le barattage du beurre, et vous dites qu'il faut que le spectateur, évidemment, il reconstitue le mouvement intermédiaire qui passe d'une image à une autre. Et je me demandais quand on commençait à apparaître, vous savez, les petits livres au cinéma qu'on feuilletait.
Bien en avant.
Et qui montre, oui, c'est bien avant le cinéma, mais à l'époque du barattage, parce que ça aurait pu être sur un de ces petits livres dont on fait tourner les pages. Et on aurait eu, à la manière de Barret, de Bridge, etc., on aurait eu la totalité du mouvement de la main en l'air à la fesse sur laquelle elle s'abat. Alors, je ne sais pas quand ça a paru, ces petits...
Hein?
Ah, voilà. Je ne sais pas quand ça a commencé à paraître, vous voyez, à faire bouger comme ça, parce qu'ils auraient pu faire ça.
Bien après le.
Oui.
Bien après la fessée ou le.
Oui, oui,
le
barattage du les 50, c'est plutôt les années 70.
Oui, bien avant.
C'est une demande d'information, savoir quand on avait la possibilité de montrer le mouvement dans sa totalité.
Je peux répondre?
Oui, bien
évidemment. Merci.
Passion, ça m'a vraiment passionné.
Merci. C'est évident de votre réponse. Juste pour commenter sur votre commentaire un peu. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur votre caractérisation de Jeff Wall. Parce que je trouve que... enfin, lui, il parle de la différence entre la photographie documentaire et la photographie théâtrale. Et il insiste que ce qu'il fait... sous forme, évidemment, de documentaire, les images théâtrales. Qu'il veut bien qu'on sache que toutes les figures sont posées, qu'on ressente l'artifice. Ensuite, sur Eve Sussman, c'est tout à fait vrai qu'elle nous montre le moment parfait. Mais ce qui est même plus intéressant, c'est que cette vidéo dépasse le moment parfait. C'est-à-dire qu'on attend pendant 6, 7, 8 minutes que les figures se ressemblent dans la composition exacte de Velázquez. Ce qu'elle fait, et c'est tout à fait frappant, même le chien prend son place. Mais après ça, la composition se décompose. Et c'est ça que je trouve génial. Elle nous donne, comme on dit chez nous, the money shot, et puis le money shot disparaît. Et c'est ça ce qu'il y a de nouveau, je trouve. Et enfin, je suis tout à fait d'accord sur la liaison que vous proposez entre Annie chez Sartre et Emma, qui tous les deux imaginent des scènes composées parfaites et figées.
Le moment parfait, c'est pas seulement ça, c'est avant Diderot, les signes, l'idée de la composition du tableau.
Absolument.
Alors, Pierre-Marc, vous voulez intervenir?
Oui, en fait, sauf qu'Emma, par rapport à ce qui vient d'être dit, là, Emma, Velázquez, elle n'a pas grand-chose à faire. Là. Ce qui l'intéresserait le plus, c'est la stéréoscopie, ce que Velázquez peut produire comme cliché. C'est là qu'elle se sent bien, quand même.
Pendant parfois, je trouvais dans les livres d'images qu'elle lisait. Je ne pensais pas à Velázquez, je pensais à une production aussi parfaite. Mais
déjà traversée par une sorte de film qui est celui de Dieu commun.
Voilà, exactement.
Tout à fait.
Parce que là, lui-même, Velázquez, c'est un peu trop dérangeant.
Ah oui.
La perfection est dans le lieu commun aussi.
C'est ça. Dans le confort de ce qui a été répété suffisamment souvent, ce qui est partagé suffisamment.
Voilà, c'est le parangon de la scène.
C'est le consensuel.
Ce qui est fiché doit être selon la fichée par de chacun.
Moi, ce qui m'a frappé, là, c'est à quel point ce que tu nous as montré dans ce travail de cette image nous situe à mi-chemin de ce qui va devenir le surréalisme. Ce qu'on a dans cette dernière image de Sosco-Pi, d'une certaine façon, elle est presque le début.
Voilà.
Oui, celle-là, ou celle avec le Hermès. Hein. On est dans quelque chose qui est un collage qui fait penser à Hermès, mais aussi il y a quelques éléments qui font penser à Magritte. Enfin, on est au fond dans les années, à la fin des années du 19e, qui se réapproprie l'image photographique d'un point de vue symbolique qui va donner Breton.
Mais voilà du surréalisme.
C'est tout à fait, je trouve, frappant comment la technique de kitsch, tu as raison.
Oui, tout à fait.
Peut en fait être aussi pensée comme une sorte de continuité qui va produire la révolution surréaliste et des effets de rupture. Qui joue alors dans le rapport au consensuel, carrément le jeu de la transgression, mais avec des outils très, très comparables.
Mais je pense aussi au collage de Picasso, qui a pris des choses sales, la rue, qui n'ont jamais mérité d'être mises en tableau, et ils font composition justement avec...
Et le Figaro aurait pu être un collage cubiste de Picasso.
Alors ce mélange de haut et bas, qui a fait Flaubert déjà, non?
Ben oui, quelquefois on a chez Flaubert une sensation un peu surréaliste en lisant certaines de ses images. Je pense à l'image là, par exemple, de quand Frédéric Moreau est au banquet de la présidente, et puis qu'à côté de lui, crache du sang et est en train de mourir en fait de phtisie, quoi. Et cette image lugubre qu'il voit un cadavre en tablier de cuir avec de l'eau qui passe dans ses cheveux, tout ça, c'est une image qui traverse le récit véritablement comme face à l'intensité d'un cliché stéréoscopique, hein. On voit ça en 3D, quoi. Et on est dans le fantasme, évidemment.
Oui. Julie.
Merci beaucoup, parce que c'était effectivement un exposé qui donne beaucoup à penser pour l'historienne de l'art que je suis. Et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'il me semble que finalement, entre le premier exposé aussi, j'ai beaucoup apprécié, et le vôtre, il y a des liens, notamment parce que dans ce type d'image.
Excuse-moi, vous pouvez parler un peu à haute voix?
Ah oui, ce qui m'a intéressé dans votre exposé, qui je trouve résonne avec la première intervention, c'est la place du spectateur, la place que vous accordez au spectateur, ce qu'on fait rarement finalement quand on questionne l'image. Et c'est précisément que ce type d'image qui s'adresse à un spectateur non radicalisé pose la question justement de son appétence et éventuellement, pour rebondir sur la première exposée, je crois qu'il y a quelque chose qui serait à chercher là-dedans, et d'autant plus avec ce type d'image que il a été évoqué dans le premier exposé la question de l'unité. Et là, on sent qu'on est effectivement entre mélancolie ou folie aussi. Et il me semble que les tableaux vivants, comme certains stéréoscopes, mais donc peut-être qu'il faudrait distinguer ceux qui représentent les scènes de la vie quotidienne ou ceux qui ont pour thème l'art, inquiète l'image. Qui inquiète l'image dans le sens de ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire comme moment de perfection, mais aussi éventuellement. Voilà, comme éventuellement la possibilité d'un devenir image, et donc le refus d'un devenir image, voilà, de la part du spectateur. Enfin, c'est des idées que je lance un peu, qui m'ont été suggérées par vos deux exposés, finalement. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça rebondit aussi sur les thèmes qui ont été évoqués dans le premier exposé, hein, où finalement la tension peut rester productive. Il ne s'agit pas de choisir effectivement entre matérialisme et idéalisme. Il y a une tension qu'on voit aussi à l'œuvre dans ces images, parce que finalement l'image est omniprésente, elle est à la fois inquiétée, donc toujours instable, et c'est cette instabilité, à mon avis, qui fait on va dire l'attraction même de ces procédés. Et je dirais que c'est entre eux, chez le spectateur, il y a peut-être à la fois une mélancolie à l'égard de l'unité de l'image, on la cherche cette unité, en même temps elle se défait, et donc il y a une forme de subversion aussi à la détruire. Et une subversion qui peut-être conduira au surréalisme du côté des artistes, mais qui là est une résistance même du spectateur. Donc vous aussi, ces grands cris à l'époque sur l'engouement, hein, ces arts qui n'en sont pas finalement, parce que ça dénote aussi une résistance de la part du spectateur au devenir image, et donc à la captation par l'image. Enfin, c'est vraiment des réflexions que m'ouvre votre exposé, que je trouve extrêmement riche et qui pourrait évidemment aller aussi dans d'autres directions.
Je vous remercie de mettre en relief cette dimension que j'avais pas le temps de bien développer, mais c'est pas par accident qu'on trouve des motifs de la castration ici et par là. Je pense à ce que dit Holmes quand il parle de l'effet de stéréoscopique qui vient vers vous avec ses branches qui menacent les yeux, ou l'homme dans l'image de Marinet avec son pistolet et c'est juste sur l'idée de tirer. Oui, tout ça est là.
Oui, c'est la dernière intervention qui faisait penser à une chose que tu pourrais sûrement développer plus dans ton travail dessus, qui est la question de du vide entre les deux images, qui est une question très flaubertienne que Flaubert met en œuvre dans Saint-Julien en reprenant l'opposition entre la transparence des vitraux et des barrettes de plomb, des meneaux qui séparent les images. Et on a quelque chose là très proche. Hein.
C'est oui.
Une partie du sens est dans l'opacité du plomb. C'est-à-dire dans ce qui, d'une vision à l'autre, n'est pas donné comme médiation, n'est pas explicité. Donc là, je pense que tu as complètement raison. Surtout dans le fait que le stéréoscope met en jeu deux choses. La carte photographique brute que tu as entre les mains et qui fait apparaître la dualité des images, et le blanc entre les deux, tu as une collection au fond de cartes que tu vas introduire dans la machine, et puis le moment où cette différence s'annule dans la vision binoculaire, les deux images se superposant, et alors tu n'as plus la sensation de cette médiation. Mais en retirant la carte, à nouveau tu la vois.
Oui.
Ce qui fait une différence majeure avec le cinéma. Le cinéma, tu ne feras jamais la possibilité de voir la médiation entre deux images. Tandis que la stéréoscopie, oui. Et de cette façon, elle est pédagogique par rapport à un art nouveau qui est en train de naître au même moment, qui est la bande dessinée.
Qui est le relief.
Ce jeu, mais le relief, bien sûr, qui est effectivement la chose fondamentale, mais dans la bande dessinée, ce qui est en train de s'inventer exactement de la même façon, c'est la sollicitation de la productivité intellectuelle du récepteur, du spectateur, qui doit, entre les deux images, imaginer une séquence qui va aller de l'une à l'autre. Donc, tout à fait dans la logique de ce que tu...
Ce qui nécessite des intrigues clichés que tout le monde comprend et peut remplir les vides.
C'est vrai pour la réception, mais si on prend en termes génétiques, en termes de production, on est en même temps très proche de la manière dont Flaubert travaille pour projeter des imaginaires, disons, construits, entre lesquels laisser du vide dans la narration pour produire la positivité du lecteur.
Moi, je voudrais... Pardon, vas-y.
Non, je ne comprends pas très bien ton idée de vide. C'est vrai que quand tu regardes la plaque, tu as bien cette démarcation entre les deux images. Mais en réalité, ces plaques ne sont pas faites pour être vues comme ça. Elles sont peut-être faites pour être vues dans la machine. Or, ça correspond à l'idée, évidemment, que nous avons une vision bioculaire. Et que c'est ça qui nous permet d'avoir du relief. D'ailleurs, les deux images ne sont pas rigoureusement identiques. Bien léger, bouger.
C'est vrai.
Sinon, elles se superposeraient, elles seraient plates. Donc, pour qu'il y ait relief, il faut que ce soit vu ainsi, par un œil gauche et par un œil droit. Et donc, si tu veux, une fois que tu regardes comme ce doit être regardé, tu n'as plus cette espèce de séparation. Tu as une superposition qui te donne l'illusion de quelque chose en 3D. Bon, maintenant, on a d'autres procédés pour faire du 3D. Et je crois que c'est ça, enfin, c'est pour ça que j'adhère moins à cette idée, si tu veux, d'un blanc.
Elle est dans la réalité des faits. Qu'est-ce qui se passait? Les gens avaient à l'appareil
et des
boîtiers, des boîtiers dans lesquels il y avait des plaques.
Oui, oui.
Et avant de passer
sur
les plaques, il regardait là, automatiquement, sous la forme de quelque chose, comme deux images séparées. Oui.
On peut dire que dans les deux cas, le vide articule l'image.
Je voulais. Oui, tu me permets de réintervenir. C'était sur la question de la dimension théâtrale et surjouée de l'image. Il me semble que cet aspect permet de réunir aussi des remarques diverses qui ont été faites, par exemple, sur la tension entre le mouvement et l'immobilité, sur la question de l'unité et de la surcharge, de l'excès de. Il y a vraiment cette tension, une série de tensions entre eux, et qui peut s'organiser autour de la dimension théâtrale du geste et de la théâtralité, c'est-à-dire c'est Barthes qui parle à propos de citant Baudelaire de la théâtralité du geste. Hein, il y a cette dimension, on le voit dans cette, par exemple, quand on voit le personnage couché ou le geste montré en même temps.
Ouais, oui.
Et ça renvoie aussi à l'idée du spectateur, c'est-à-dire la présence impliquée du spectateur.
Oui, les images construisent leur spectateur.
Construisent leur spectateur, mais dans une théâtralité du mouvement.
Oui.
C'est-à-dire,
oui.
Ce sont des tableaux composés et cette composition renvoie. Voilà. Excusez-moi, je vous ai fait le geste.
Et je pourrais continuer sur les fameuses épreuves en mouvement.
Oui.
Les épreuves en mouvement.
Oui.
Oui. Deux prises de vue d'un temps identique.
Oui.
Or là, non. C'est-à-dire qu'on a deux temps pour un point de vue unique.
Oui.
Donc je voulais savoir mécaniquement comment se perd cette animation.
Pour la fessée, qu'est-ce qu'on voit?
Justement, j'ai pas eu l'expérience, mais j'imagine que c'est une image double. Qui est une autre forme de comprimer le temps et l'espace.
Vous ne pouvez pas les voir dans le stéréoscope, ça n'aurait rien de lui du tout.
C'est tout théorique pour moi, je n'ai pas eu l'expérience.
Ici, il faut cligner les yeux. Mais ça dit, les images surjouées, c'est une petite partie de la population des images.
Oui, mais il y a quand même cette
immense majorité, c'est des paysages qu'on retrouve dans le traité de façon stéréoscopique.
Les images sont
énormes. Exploration du monde par la prison.
Oui, tu as tout à fait raison, mais les images surjouées sont les tableaux vivants. Et c'est de ça dont tu parlais.
Et le cinéma animé au début surjouera aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Une dernière intervention.
Et là, je pense qu'Arden en parlerait infiniment mieux que moi, mais effectivement, quand on parle de tableau vivant, ce qu'on avait évoqué, ce que je vais faire encore ailleurs, c'est que ce sont des personnes vivantes. Là, on n'est pas face à de la peinture. Et je que là, pour le coup, effectivement, entre la présence réelle du corps et le geste extrêmement artificiel, il y a une tension, encore une fois, qui est assez... ce sont des personnages vivants qui jouent des rôles. Ouais. Il faut quand même que le spectateur fasse tout un travail sur son imaginaire pour pouvoir réellement se sentir transporté dans une scène complètement... pour se sentir en face de quelque chose qui serait réel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours ce jeu entre la mise en scène, la présence du corps réel, d'autres médias, des médiums qui sont à la peinture. Ça, c'est aussi très, très important, je pense, pour ce type d'image. Hein, que ce soit des personnes...
Ce qu'on parle très bien dans la scène d'Adamo Vivo dans la cuisine.
Oui, c'est inquiétant, en fait. C'est inquiétant de démarcher...
Oui, c'est juste l'intérêt de Marinet qui met en conversation la matérialité et l'illusion.
Enfin, en même temps, à l'époque, il n'y a pas de... On n'a pas de VHS, on n'a pas de vidéo, et dans les bordels, ce sont des tableaux vivants. Ce n'est pas du film, c'est pas encore... Donc, les tableaux vivants qui met en scène des corps vivants de façon surjouée, souvent d'ailleurs, dans des situations érotiques, c'est l'habitude. Il y a beaucoup de visiteurs de ces tableaux-là.
C'était le cas dans, j'oublie exactement quelle production, mais si on voulait montrer les femmes nues, pour que ce ne soit pas pornographique, il a fallu qu'elles restent immobiles. Une fois qu'elle commence à bouger, c'était de la pornographie.
Oui,
ce qui veut dire que c'est l'immobilité qui définit l'art, qui sépare l'art de la pornographie. Quant à la loi.
C'est
une
statue.
Oui.
On s'arrête sur ces remarques. Merci encore beaucoup, Ardenne. Je dois vous rappeler. Le prochain séminaire aura lieu, sera sous forme de colloque sur Bouvard et Pécuchet, 21, 22, 23 mars. Je rappelle à la Bibliothèque nationale, aux archives et à l'ENS. Et le séminaire suivant aura lieu le 6 avril, ici, avec un exposé de Takashi Kinoichi, qui est ici présent, sur Flaubert et la gravure romantique, et Ségolène Lemaine, les arts graphiques dans le musée imaginaire de Flaubert. Donc on continuera sur l'image. Voilà, merci.
On arrive à la faire marcher. C'est... Après la pause. Après la pause, il n'y avait pas de pause du tout. Alors...